Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Au cours des deux émissions précédentes, nous avions abordé la difficile question de l'inspiration divine de la Bible. Elle est affirmée par la tradition chrétienne et donne sens aux Écritures pour les croyants. Au lieu d'une approche académique de cette question, vous nous aviez proposé, Père Alain, de relire le premier chapitre de la Genèse qui relate la création de l'univers et de l'homme. L'étude de ce texte peut en effet nous aider à mieux comprendre comment Dieu s'y prend pour parler aux hommes à travers les écrivains bibliques et leurs écritures. Alors il y a quelque chose qu'on peut signaler d'entrée de jeu à nos auditeurs, c'est que ce texte a suscité énormément de commentaires au fil des siècles, mais surtout à notre époque. Il y a beaucoup de livres et je vois que vous avez entre les mains, Père Alain, un ouvrage d'un de vos amis, le Père Jean Lourd, et vous souhaitiez nous en parler un peu.
Oui, je pense que en évoquant le nombre d'écrivains qui ont travaillé sur ces textes que nous avons lus ensemble, que nous avons médités, on est frappé de voir qu'on a l'impression qu'on n'a jamais fini finalement de trouver des valeurs. Et ce que j'évoque là, Jean Lourd, c'est un exégète breton qui a beaucoup roulé sa bosse, un missionnaire, une mission étrangère de Paris qui habite à Toulouse actuellement. Et il vient d'écrire un premier volume de 170 pages uniquement sur le premier chapitre de la Genèse. Et il prévoit d'en écrire deux autres volumes pour aller jusqu'à la fin du chapitre 11. C'est dire les choses qu'il va nous apprendre. Et je vous lis juste ces quelques lignes parce que ça peut nous aider à mesurer la place dans la tradition de l'Église et même aussi la tradition peut-être littéraire de ce texte. Parlant du premier chapitre de la Genèse que nous avons parcouru depuis quelques jours, c'est une clé, dit-il, parlant du premier chapitre de la Genèse, c'est une clé qui ouvre au lecteur la porte de la Bible, une clé pour comprendre le monde et son histoire, une clé offerte pour tenter, derrière le triste spectacle des violences faites à l'humanité et à la planète, de voir et de croire que notre pauvre monde est malgré tout foncièrement bon, très bon, même s'il nous appartient chaque jour de le faire un peu meilleur. Belle introduction, vous ne trouvez pas ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut recommander à nos auditeurs la lecture, peut-être pas de cet ouvrage qui est un ouvrage scientifique assez élaboré, mais tout simplement d'un cahier évangile qui a été publié par le père Jean Lourd en septembre 2012. C'est le numéro 161 qui s'intitule « Genèse, chapitre 1 à 11, les pas de l'humanité sur la terre ». Si vous souhaitez d'ailleurs peut-être d'autres références bibliographiques, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. L'adresse sera redonnée à la fin de l'émission et nous vous répondrons. Alors, les premiers lecteurs de ce texte étaient quand même d'abord les Juifs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la lecture juive de ce texte ?
Alors, je n'ai pas travailler de manière particulière les recherches bibliques, mais vous savez, les Juifs ont développé beaucoup de thématiques avec on pourrait dire des méthodes de lecture qui souvent nous déconcertent, nous, qui jouent sur les mots, sur le vocabulaire, sur les lettres même, il y a une richesse. Mais en particulier, il y a un élément qui peut nous éclairer. On raconte que les grands maîtres juifs interdisaient d'essayer de franchir, au fond, l'espace qui est au-delà des premiers mots de la Genèse, Bereshit. Ça commence par la lettre B. Et les rabbins disent, pourquoi on n'a pas commencé par la lettre A ? Puisque c'est la première lettre de l'alphabet, Aleph. Et là, on commence au contraire par la lettre Bet. C'est la lettre B, nous avons le même alphabet. Pourquoi la lettre Bet et pas la lettre A ? Et alors, ils répondent, parce que la lettre A, elle ouvre sur ce qui est inaccessible à l'homme, c'est-à-dire le mystère de Dieu. Et si vous vous souvenez, je sais que vous avez fait un peu d'hébreu, vous vous rappelez que la lettre Beth s'écrit sous une forme fermée du côté droit, puisque la langue hébraïque s'écrit de droite à gauche. Et donc, le premier mot B se trouve dans la première ligne à droite. Et la lettre B ferme. Et il est interdit de vouloir casser la lettre B. Elle est fermée. Personne n'a le droit de toucher au mystère même de Dieu. On ne peut connaître Dieu que parce qu'il agit dans l'histoire. C'est-à-dire, le Dieu que l'on connaît, c'est celui que nous raconte la Bible. C'est comme ça qu'on connaît Dieu, par l'Exode, par Abraham, par tout ce que l'on peut évoquer, les prophètes, les psaumes. Ça, c'est Dieu qui se raconte à travers des témoins. Mais avant, interdit. Et donc, et on pourrait dire à ce moment-là, vous voyez, ça peut nous donner une thématique. Regardez, je vais faire tout de suite un parallèle avec saint Jean. Saint Jean a un prologue qui est évidemment écrit en grec, hein, mais je suis sûr que celui qui a écrit le prologue de saint Jean connaissait la tradition hébraïque, car il a fait la même faute d'orthographe ou la même faute de syntaxe que l'hébreu. On aurait attendu, quand on dit Bereshit, il aurait fallu l'article dans un commencement. Or, là, il n'y a pas d'article Bereshit. Et quand saint Jean va raconter son commencement, il va faire la même faute, entre guillemets. Au lieu de dire en théarché avec l'article, il dit en arché. Comme s'il voulait reprendre les mots littéralement que l'on trouve dans la Genèse. Mais la grande différence, c'est que ce qui était interdit dans la tradition juive, désormais, n'est plus interdit. Car si vous regardez la fin du chapitre que nous regardons à l'instant, on dit à la fin du prologue de saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. C'est-à-dire, Jésus, il a cassé la lettre bête et il est passé de l'autre côté, parce qu'il nous a fait connaître la Trinité divine. Alors vous voyez, c'est assez beau qu'on trouve ce parallélisme dans le prologue de saint Jean, avec cette beauté que j'évoque, que le langage, au fond, peut être éclairant quelquefois aussi.
Alors là, vous êtes déjà dans l'interprétation chrétienne des textes. Je voudrais rester juste quelques instants sur, justement, Dieu. Dans nos Bibles françaises, on traduit par Dieu, mais ce qui est traduit par Dieu, c'est le mot Elohim qui était utilisé dans ce premier texte. Qu'est-ce que ça signifiait exactement pour les Juifs de l'époque? Quelle était leur conception, finalement, de Dieu?
Vous nous donnez l'occasion d'évoquer le nom de Dieu dans l'univers sémitique. Ils avaient le même Dieu, pratiquement tous les peuples de l'univers sémitique, et quand Israël va naître comme un peuple avec un attachement à Dieu dans l'Exode, enfin tout ce que l'on connaît par ailleurs, ils vont garder les mêmes mots. Elohim, c'est un pluriel en hébreu. Le im, c'est la forme du pluriel masculin en hébreu. Et im signifie l'intensité. Donc dire Elohim, c'est marquer au fond la grandeur, la richesse de Dieu à travers ce pluriel. Le nom le plus courant, c'est El. Ou bien ou bien Allah, c'est le même nom exactement. Les musulmans ont le même nom pour leur Dieu que le nom des Juifs. Alors vous voyez, les intégristes musulmans gagneraient sans doute à comprendre les accords qu'il y a entre la Bible juive, leur Coran, et puis la Bible chrétienne. C'est le même Dieu, et c'est le même Abraham qui est leur compagnon, etc. On pourrait multiplier ça. Donc vous avez ce nom. C'est le nom courant, c'est la divinité, on pourrait dire, Elohim, c'est la divinité. Et donc, quelquefois associé à Adonai. Adonai, c'est la version respectée du vrai nom de Dieu. Il y avait le tétragramme, les quatre lettres de Dieu, c'est les tétragrammes, imprononçables. Et donc, pour ne pas le prononcer, le jour où les écrivains ont mis les voyelles sous les consonnes hébraïques, parce qu'en hébreu, il n'y avait pas de voyelles. Ce n'est qu'autour du 8e, 9e siècle que l'on va mettre les voyelles. Et pour éviter que l'on prononce mal le nom de Yahvé, ils ont mis les voyelles de Adonai. C'est-à-dire que si vous le prononcez, ça donne à peu près Yehova. C'est-à-dire, et quand on va pour la première fois interpréter le texte, ne connaissant pas l'hébreu, on va appeler Dieu Jéhovah. Mais c'est un contresens, c'est-à-dire c'est une faute de vocabulaire, c'est des gens qui, c'est pas de leur faute, hein, qui ne savaient pas que c'était les voyelles du mot Adonai. Et aujourd'hui, plus personne, il n'y a que les témoins de Jéhovah qui disent Jéhovah, mais je ne veux pas juger les témoins de Jéhovah, je le respecte, mais le nom Jéhovah n'est pas un nom biblique, c'est un nom, c'est une erreur de traduction.
Mais alors, dans le premier récit, on parle d'Elohim, effectivement, mais dans le deuxième récit, il va y avoir justement une association, un nom composé, Yahvé Elohim, et apparemment, c'est pratiquement que dans ce seul texte que ça apparaît sous cette forme. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
En fait, il apparaît dans une vingtaine de textes en dehors de ce passage-là, et c'est assez rare. Je crois que c'était un appel... qui venait du temple de Jérusalem, je pense. C'est avoir associé les mots, les deux mots, c'est-à-dire à la fois le nom de la révélation sinaïtique et puis le nom du Dieu générique, Yahvé Elohim. Et là où vous faites allusion, on aura l'occasion un jour peut-être d'en parler, c'est justement que quand le tentateur vient tenter Ève, curieusement, il ne dit plus Yahvé Elohim, mais il dit Elohim, c'est-à-dire la divinité. Un peu perverse, justement, alors qu'il fallait garder Yahvé Elohim, qui était là depuis le début. C'est-à-dire, Yahvé, c'est la tendresse de Dieu, et Elohim, c'est la puissance de Dieu. Enfin, je conjugue ça un peu rapidement, mais les deux sont associés. Il ne faut pas les dissocier.
Alors, est-ce que nous pourrions poursuivre, peut-être, vous aviez commencé à en parler, sur la lecture chrétienne de ce premier chapitre de la Genèse ?
Alors, c'est sûr que, pour les chrétiens, c'est un texte fondamental. Hein. C'est un texte qui va éclairer, qui projette sa lumière, on pourrait dire, sur toutes les Écritures et sur l'aujourd'hui. C'est-à-dire, on ne va pas le reprendre, bien sûr, mais tout ce passage au fond des ténèbres dans la lumière et cette place de l'homme accordée dans la création, cette exaltation, au fond, cette parole de Dieu qui, à un moment donné, n'est plus monologue mais devient dialogue, Dieu leur dit, c'est-à-dire l'homme est invité, et ce sera les chapitres suivants qui vont montrer que l'homme est parfois réticent, hein. L'homme a du mal à suivre Dieu. Dieu est exigeant, Dieu est un Dieu d'amour mais aussi un Dieu d'exigence, et l'homme peine à suivre Dieu. Et on sait qu'il y aura beaucoup de drames à la fois dans la vie de l'homme et aussi dans l'univers, puisque le déluge marque une sorte de destruction du monde à cause de l'homme. Et évidemment, on est déjà dans cette direction-là, sur une thématique qui touche beaucoup à tout ce qui concerne l'écologie d'aujourd'hui, le respect de la création et la place de l'homme dans la création.
Alors justement, à ce propos, il y a quand même un verset qui fâche dans ce premier texte. Soumettez la terre, dominez sur les animaux. Et c'est vrai qu'à une époque où on est soucieux d'écologie et de sauvegarde de la planète, ce verset peut choquer. Mais ça n'a pas gêné d'ailleurs le pape François pour écrire son encyclique Laudato Si. Alors comment on peut interpréter ce verset ?
Alors il y aurait certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. Et les savants, vous évoquiez la place des savants. Les savants ont dit beaucoup de choses sur la façon dont l'homme a rencontré l'animal dans l'histoire des civilisations. Et c'est pas toujours glorieux, hein. Ici, on dit dominer, mais on ne dit pas qu'il faut les massacrer. N'oubliez pas que dans le premier chapitre de la Genèse, l'homme et les animaux étaient herbivores. On ne mangeait pas de chair d'animal. Ce n'est qu'à partir du péché, du déluge, que Noé sera autorisé, encore avec certaines limites, à manger de la chair d'animal. Mais dans le premier chapitre, ça n'existait pas. C'est-à-dire, l'animal était respecté. Donc, on pourrait dire, là, on rejoint un peu des choses qui touchent au monde végétarien aujourd'hui. Moi, je découvre un peu ça, parce que je suis un peu origine de paysan. Donc, on savait ce que c'était que manger un lapin ou une bonne bête. Ici, j'ai des amis avec qui je mange, qui sont végétariens. Donc, je découvre par eux. Or, le premier texte de la Genèse était végétarien. On ne mangeait pas la chair d'animaux. Et pourtant, quand on étudie l'histoire des civilisations, on est un peu déçu de voir la violence de l'homme face aux animaux. Et que là, ça pourrait être une réflexion aussi. Face à la nature aussi. Comment on la détruit ? J'imagine que vous êtes peut-être plus compétent que moi peut-être pour en parler, parce que je ne suis pas spécialiste, mais on voit bien que notre monde est fragile aujourd'hui et que le pape François nous rappelle beaucoup de choses importantes qui ont été prises en compte par beaucoup de savants. Là, il a été écouté par beaucoup de savants, parce que je crois que notre terre est fragile, il faut le dire. C'est pour ça que l'idée de l'homme, au fond, chargé d'une partie, faisons l'homme à notre image. Moi, je fais ma part, dit Dieu, fais ta part. Et si l'homme ne la fait pas, le monde pourrait s'écrouler. On peut penser ça.
Alors effectivement, vous parlez des savants et les scientifiques, par rapport à ce texte, ont été parfois dans des positions un peu critiques, et même très critiques, parce que finalement ce texte, il prétend décrire dans un langage très imagé et symbolique la création de l'univers et de l'homme par Dieu. Mais on a entendu des lectures très fondamentalistes qui prennent ce texte au pied de la lettre. On a aussi entendu des lectures dites concordistes qui cherchent à établir des correspondances avec la connaissance scientifique. Comment peut-on lire aujourd'hui ce texte sur les origines? Qu'est-ce qu'on peut dire aux scientifiques à ce sujet? Certains sont croyants et n'ont pas eu trop de difficultés à les intégrer, mais certains sont encore en opposition par rapport à la lecture, les lectures qu'on peut faire de ce texte.
On peut dire au moins une chose qui est un donné de l'histoire, c'est-à-dire que depuis quelques siècles, le monde et puis les chrétiens, peut-être plus tardivement d'ailleurs que les savants, ont compris que la Bible n'était pas un livre à interpréter de manière fondamentaliste. C'est-à-dire qu'il fallait décoder certains passages et qu'il ne fallait pas prendre à la lettre un certain nombre de réalités sur l'origine de l'homme, sur un tas de réalités. L'Église a mis du temps à entrer dans cette mouvement. Il y a eu beaucoup d'exégètes, par exemple, qui ont souffert de leur audace peut-être prématurée par rapport à ce que l'on sait. Moi, j'ai une tendresse particulière, parce que j'étais à Jérusalem pour le père Lagrange. Père Lagrange, c'était un père dominicain qui avait senti avant les autres qu'il fallait ouvrir des voies. Et il va faire des études de langue, il va faire un tas d'études. Et là, il va être condamné souvent par Rome. Et malheureusement, injustement. Et d'autres comme lui, le pape Benoît XVI, a fait un anniversaire en 2002, oui, c'est pas si vieux que ça, on a célébré le 100e anniversaire de la création d'un texte qui donnait les règles pour l'interprétation des Écritures. C'était né en 1902. Et c'est encore en valeur, c'est un texte important, c'est un outil formidable où les exégètes ouvrent des chemins encore aujourd'hui. Mais on a été injuste, le père Lagrange a beaucoup souffert d'être condamné, d'avoir ses livres mis à l'index, et souvent par ignorance, et donc tout en restant très obéissant. Il y a eu des crises dans l'Église, c'est comme ça. Il y a eu plusieurs textes, on aura peut-être d'autres mots, on pourra développer ça, mais pour le moment, on pourrait dire au fond, on ne peut pas, nous, à travers nos démarches, nos recherches de biblistes, de savants, on ne peut pas adopter une lecture fondamentaliste. Prendre à la lettre les textes bibliques comme certains le font, en particulier aux États-Unis. Vous avez tout un courant au sud des États-Unis qui fait une lecture littérale des textes. Je pense que c'est pas possible aujourd'hui. Alors, bon, chacun respecte les autres, mais on a des textes officiels dans l'Église qui nous disent, au fond, comment on peut interpréter. Je pense que nous essayons de respecter ces textes-là. Donc ça reste valable.
Est-ce que une formule qui a souvent été utilisée, consistant à dire la Bible nous parle du pourquoi des choses et la science nous parle du comment des choses, même si elle est peut-être un petit peu simpliste, est-ce que ça peut être utilisable encore aujourd'hui?
Oui, c'est vrai qu'on peut dire, d'un côté il y a l'explication scientifique, puis après il y a la signification des textes, la symbolique on pourrait dire, et même la signification spirituelle, et oui, vraiment spirituelle, avec l'usage que l'Église en fait. On peut penser par exemple à la nuit pascale.
Oui, c'est vrai que nous lisons dans la veillée pascale ce texte.
Alors, effectivement, est-ce qu'on peut se souvenir, quand on chante « Ô nuit merveilleuse qui nous a valu un tel rédempteur », c'est au fond un rappel de cette lumière qui commence à jaillir dans les ténèbres du chapitre que nous avons regardé ensemble et qui aboutit à la lumière qui jaillit du tombeau obscur où le Christ était enseveli. C'est la lumière du Christ et c'est ce qui nous a valu au fond ce grand rédempteur et c'est, on pourrait dire, l'aboutissement de ce qui naissait avec le premier chapitre de la Genèse.
Merci Père Alain. Nous sommes au terme donc de cette série de 3 émissions consacrées à l'inspiration divine de la Bible. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique Selon les Écritures, avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes, du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.